écoutez Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel, c'est l'heure d'un nouveau journal.
Stéphane Genest.
Bonsoir à toutes et à tous, elle est une de cette édition, la Floride en état d'alerte maximale. L'ouragan Milton, classé en catégorie 5, le niveau le plus élevé, va toucher sol dans les prochaines heures. 7 millions de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer la région. Le Hezbollah dit avoir tiré des roquettes sur Haïfa, la grande ville du nord d'Israël, ville stratégique à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec le Liban. Une roquette a frappé le centre urbain de la ville, nos envoyés spéciaux sont sur place. Au sommaire également, ce regain de tension en Martinique. En marge de manifestations contre la vie chère, 4 gendarmes légèrement blessés par des tirs. Et certaines gendarmeries françaises ne sont plus en mesure de payer leur loyer. On vous explique tout à la fin de ce journal.
RFI.
Les États-Unis, puisque la Floride se prépare au passage de l'ouragan Milton, ouragan historique qui fonce tout droit sur la mégalopole de Tampa. Milton, qui est extrêmement dangereux, classé en catégorie de danger maximal. Région qui est donc en état d'alerte, puisque ce sont 7 millions de personnes qui sont concernées et qui ont reçu l'ordre d'évacuer, David Thompson.
La côte ouest de Floride se prépare au choc d'un ouragan historique. Les météorologues sont unanimes. Milton, c'est presque du jamais vu et cet ouragan fonce droit sur la mégalopole de Tampa et ses 3 millions d'habitants. Sur CNN hier soir, la maire implorait ses administrés de quitter la ville au plus vite. Avec des mots très directs, ceux qui ne respectent pas l'ordre d'évacuer, prévient Jane Castor, vont tout simplement mourir. Un appel repris ce matin par le président des États-Unis Joe Biden depuis la Maison Blanche.
C'est peut-être le pire ouragan du siècle. J'appelle tout le monde qui se trouverait sur la trajectoire de l'ouragan à écouter les consignes des autorités locales et à évacuer dès maintenant. Vous auriez déjà dû le faire, je n'exagère pas. C'est une question de vie ou de mort.
Et les habitants ne se font pas prier pour partir. Ils fuient Tampa en masse. Un immense embouteillage d'une cinquantaine de kilomètres s'est formé à la sortie nord de la ville. L'impact est prévu pour demain, mercredi, avec des vents dépassant les 200 km/h et surtout une montée des eaux de plus de 4 mètres en plein cœur de cette mégalopole. Le scénario du pire pour la Floride, tout juste 2 semaines après le passage d'un autre ouragan, Hélène, qui a laissé plus de 230 morts dans son sillage. David Thompson, Miami RFI.
Et cet ouragan Milton, on l'a entendu, inquiète Joe Biden, le président américain qui renonce à se rendre comme prévu en fin de semaine en Allemagne puis en Angola, en raison précisément de cette actualité. La Maison Blanche indique qu'il reste sur le sol américain pour superviser les préparatifs et la réponse donc au passage de l'ouragan Milton. L'autre titre de l'actualité, c'est évidemment la situation au Proche-Orient, puisqu'Israël élargit son offensive terrestre contre le Hezbollah dans le sud du Liban. L'État hébreu y a déployé une 4e division après avoir appelé les habitants de la région à évacuer la zone côtière. Ce mardi soir, le premier ministre israélien appelle les Libanais, je cite, à sauver leur pays en le libérant du Hezbollah, Benjamin Netanyahu, qui menace, dans le cas contraire, le Liban de connaître le même sort que la bande de Gaza. Le Hezbollah, lui, affirme avoir repoussé des soldats israéliens infiltrés près d'une position de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Et à plusieurs dizaines de kilomètres de là, le Hezbollah a tiré environ 85 roquettes sur Haïfa, au nord d'Israël, ville portuaire stratégique. Elle héberge notamment une raffinerie et c'est là que se sont réfugiées les 3000 personnes qui ont fui la zone frontalière avec le Liban, à seulement 40 kilomètres de la frontière. Et malgré le système de défense anti-aérien israélien, c'est la 2e fois en 2 jours qu'une roquette atteint le centre urbain de la ville. Nos envoyés spéciaux Oriane Verdier et Nicolas Benita se sont rendus sur les lieux de l'impact. Reportage.
Toutes les fenêtres des grandes barres d'immeubles qui entourent la boulangerie sur laquelle a atterri la roquette ont été soufflées. L'armée a rapidement mis en place un périmètre de sécurité. Derrière l'un des rubans rouge et blanc, Yaniv, débardeur et tatouage, boit une bière en observant l'agitation.
C'est la première fois que c'est aussi intense. Il y avait des alarmes, mais moi j'ai jamais fait attention aux alarmes, j'ai pas peur des Arabes. Quand il y a des alarmes, j'ai toujours regardé les interceptions des roquettes par le dôme de fer. J'ai jamais pensé à fuir, à me cacher aux abris. Mais aujourd'hui, il faut que j'aille remercier le bon Dieu. Ça fait boum, 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 tac, tac, boum. Comme une pluie d'explosions avec plein d'éclats qui volent dans tous les sens.
Yaniv est l'un des rares habitants à ne pas être parti aux abris. Un seul blessé léger a été recensé. Le commandant Liran Salomon dirige les opérations militaires sur la zone.
La roquette est tombée juste entre les deux bâtiments là. C'est la première fois qu'on a géré une telle situation. On a fait notre travail du mieux qu'on peut. On a des entraînements intensifs en amont à cet effet.
Alors que l'armée sécurisait les lieux, la municipalité a rapidement nettoyé la place de toute trace de débris. Le maire nous a affirmé tenir à ce que les habitants ne fuient pas la ville. Nicolas Benita, Oriane Verdier, Haïfa, RFI.
Par ailleurs, le Qatar annonce ouvrir un pont aérien pour aider le Liban. Le Qatar, tout comme la France d'ailleurs, qui ont acheminé ce mardi de l'aide humanitaire d'urgence au Liban. Le chef de la diplomatie française qui décrit, je cite, « un pays au bord du gouffre ». Autre conflit suivi de près par la France en Ukraine. La Russie revendique d'ailleurs la prise de deux nouveaux villages dans l'est du pays. Les frappes russes contre la population continuent de manière quotidienne et ces bombardements ne se limitent plus à la ligne de front. Parmi les villes les plus touchées, Kharkiv, deuxième plus grande ville du pays. Elle a été de nouveau visée aujourd'hui. Deux personnes y ont été tuées, une trentaine d'autres ont été blessés. Un mot également de ce vote des députés kényans. Vote ce mardi, ils ont voté la destitution du vice-président Rigathi Gachagua. Décision historique qui marque le point culminant de plusieurs mois de conflit ouvert entre le président William Ruto et son adjoint. Motion approuvée donc par l'Assemblée nationale. Elle doit maintenant être soumise au Sénat. L'actualité en France à 22h06, ici à Paris, ce sont ces affrontements qui se poursuivent et qui s'intensifient en Martinique entre manifestants et forces de l'ordre. Affrontements qui durent depuis maintenant plus d'un mois en marge du mouvement de lutte contre la vie chère. Quatre gendarmes mobiles ont été légèrement blessés par des tirs dans la nuit de lundi à mardi lors de violences urbaines. Écoutez la réaction de la députée issue du Parti Socialiste de Martinique, Béatrice Bellet.
Nous sommes toujours très dérangés par la tournure ultra-violente que prennent les mesures de répression de l'État. En l'occurrence, il y a aujourd'hui des méthodes qui permettent en tout cas aux personnes d'être déconcentrées d'un lieu. Elles ne sont pas utilisées. Aujourd'hui, c'est la matraque, ce sont les fumigènes, les coups, les charges. Et nous trouvons ça évidemment inadmissible. L'État ne prend pas le problème de la Martinique à bras-le-corps. La preuve, c'est qu'aucune réponse jusqu'à maintenant est donnée. Nous, députés martiniquais, avons envoyé un courrier au Premier ministre pour lui demander une réunion en urgence. Nous espérons qu'il va pouvoir nous répondre rapidement parce qu'il va falloir des réponses rapides. Aujourd'hui, ce ne sont pas des caprices que font les gens. C'est une situation qui est tout simplement devenue intenable.
La députée martiniquaise issue du Parti Socialiste, Béatrice Bellet, au micro RFI de Charlotte Urien-Tomaka. Regarde tension en Martinique précisément, qui a été évoquée, on l'a entendu ce mardi à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle où le Premier ministre a également fait face à une première motion de censure. Elle a été déposée par les députés de l'Alliance des partis de gauche, le Nouveau Front Populaire. Eh bien, cette motion n'a pas été votée, elle a été refusée par les députés. On en vient maintenant à cette situation en France, puisque plusieurs casernes de gendarmerie du pays ne peuvent plus payer leur loyer aux communes qui les hébergent. Les trois prochains loyers ne seront pas honorés car il a fallu en fait faire des choix au détriment donc des municipalités. Explication de cette situation pour le moins inhabituelle avec Olivier Charman.
Les caisses de la gendarmerie nationale sont vides, du moins pour payer les loyers. Et le ministère de l'Intérieur invoque plusieurs raisons pour expliquer ces problèmes de trésorerie. D'abord, le paiement des dépenses liées à la sécurisation des Jeux Olympiques qui n'avaient pas été évaluées à leur juste niveau. Ensuite, une insuffisance initiale de crédit de l'ordre de 200 millions d'euros. Et enfin, les dépenses engagées en raison du conflit en Nouvelle-Calédonie. Trois raisons principales donc, et Beauvau a dû faire des choix en décidant de prioriser pour les semaines à venir, les dépenses liées à l'activité opérationnelle comme le carburant. Des communes se retrouvent à présent dans une situation financière problématique. Ces loyers représentent une ligne de trésorerie vitale et certaines mairies s'inquiètent de ne pas pouvoir boucler leur budget 2024. L'État aurait donc demandé à ses services d'identifier les communes les plus en difficulté pour les régler en priorité.
Le récit d'Olivier Charman, le chef du service France de RFI, puis toujours en France, l'un des fils d'Oussama Ben Laden, interdit de séjour dans le pays. Omar Ben Laden, c'est son nom, s'était installé en Normandie en 2018. Il s'est vu notifier une interdiction administrative du territoire français. Il ne peut donc plus revenir sur le sol français, en France. Donc voilà ce qu'a annoncé tout à l'heure le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Il lui reproche d'avoir notamment accueilli sur ses réseaux sociaux en 2023 des propos relevant de l'apologie du terrorisme. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. 22h10, ici à Paris. Tout de suite, Claudie Sciard, couleur tropicale sur la radio du Monde.